Bien, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Laurent Gagnebin, qui est un familier du lieu, l'un de nos prédécesseurs finalement avec Marc dans cette chaire de l'oratoire et dans ce lieu. Laurent a immédiatement répondu favorablement à notre demande de venir présenter Wilfred Monod et son œuvre, hein, puisque c'est en tant que théologien, en tant que pasteur qui nous intéresse. Laurent Gagnebin, parce que c'est l'un des meilleurs connaisseurs en France de Wilfred Monod, il a notamment publié à son sujet, sans vouloir faire de procès d'intention, je pense que tu as tout lu de Wilfred Monod. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas obligé de répondre. C'est celui d'entre nous qui est le plus lu, en tout cas. Plus que cela, c'est pour toi une figure majeure du protestantisme français. Et donc, le fait que tu puisses en parler avec bienveillance était important pour nous, parce que c'est une figure que nous apprécions beaucoup à l'oratoire et c'est une figure méconnue, en fait. Nous le connaissons à travers son portrait, nous le connaissons à travers son fils, à travers la fondation de la communauté des veilleurs, à travers la fondation du centre social La Clairière. Peut-être avons-nous lu une ou l'autre de ses prédications, et puis voilà, à peu près. Hein. Donc nous te laissons la parole. Notre soirée s'achève à 21h30, et donc tu as carte blanche pour animer ce moment-là.
Merci pour ton accueil et merci pour votre présence. Oui, ça m'est très agréable de venir parler ici de Wilfred Monod. Vous avez sous les yeux le plan ou le déroulé de ce que je vais dire. N'ayez crainte, parfois une de ces étapes, c'est une seule phrase, hein, ça n'est pas chaque fois un développement, parce qu'alors il faudrait y rester plusieurs jours. Et puis derrière, deux textes que nous lirons. Chemin faisant, de Wilfred Monod. Alors, d'abord une petite chronologie. Il est né à Paris en 1867. Son père, son grand-père paternel, qui s'appelle Frédéric, qui a été pasteur de l'oratoire à Paris, puis qui fonde ensuite les églises libres, dont la chapelle du Nord à Paris. Son grand-père est donc lui aussi pasteur. Cette église de la chapelle du Nord, dont Tommy Fallot sera un des pasteurs de 1876 à 1890. Tommy Fallot, qui est une des grandes figures d'un christianisme social. Son arrière-grand-père paternel est aussi pasteur. Il fait une licence en philosophie à la Sorbonne en 1887, et de 88 à 1891, il fait ses études de théologie à Montauban, et pendant ses études, des voyages en Suède, en Allemagne, en Écosse, en Angleterre et aux États-Unis. En 1891, mariage à l'oratoire avec Dorina Monod, petite-fille d'Adolphe Monod, Salle Adolphe Monod, qui est Adolphe le frère aîné de Frédéric Monod, dont je viens de vous parler, qui est donc le grand-père paternel de Wilfred Monod. De 91 à 92, c'est son semestre d'études à Berlin où il entend Harnack. Pour ceux qui s'y connaissent, vous verrez peut-être des conjonctions entre la pensée de Harnack et celle de Monod. 1892, sa consécration pastorale a lieu à l'oratoire. Sa première paroisse, de 1892 à 98, c'est Condé-sur-Noireau. Et je précise dans le Calvados, parce que Calvados veut dire alcool et alcoolisme. Un alcoolisme énorme. Et c'est à cette occasion qu'il découvre l'importance des questions sociales dont il n'avait jamais entendu parler auparavant dans sa vie. Et cela le conduit à cette recherche et à cette quête et à cette affirmation d'un christianisme social. Il intervient dans un drame social à l'occasion d'une grève industrielle comme médiateur entre les patrons et les grévistes. Le 8 juin 1893, il vit une sorte d'illumination intérieure, il a souvent parlé de cela dans son œuvre, où domine la contemplation du Christ. Je me demande, mais je n'ai pas fait un pointage exact, s'il ne parle pas plus souvent de contempler le Christ que d'écouter le Christ, ce qui veut dire quand même quelque chose de sa piété. Et au verso, vous trouvez par exemple ce qu'il écrit dans « Après la journée », ce sont ses mémoires, ses souvenirs, son autobiographie, c'est un livre introuvable, si vous le trouvez, gardez-le, c'est passionnant. On a là l'itinéraire d'un pasteur de cette époque. Alors voilà ce qu'il écrit, le 8 juin 1893, pendant que je priais, le Christ me fut révélé spirituellement dans la plénitude salvatrice de sa personnalité. Cette expérience morale et religieuse n'offrit pas le moindre caractère du phénomène audible ou optique. La conviction intime ne fut pas un seul instant concrétisée en manifestation extérieure, en apparition. Mais je compris avec intensité que les cadres de la religion étaient trop resserrés pour contenir le héros des évangiles. Le Fils de l'homme appartenait simultanément à tous les domaines de l'humanité qui prie et pense et agit. Il tenait la clé de tous les problèmes concrets qui se posent, politiques et sociaux, moraux et philosophiques. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques remarques déjà à faire à ce sujet. N'hésitez pas, mais on avancera davantage peut-être dans cette découverte de cette théologie. Je pointe au moins trois choses dans ce texte, mais il y en a d'autres. Déjà trois choses, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Son christocentrisme, ce qui n'est pas d'ailleurs très libéral, les libéraux étant théocentriques. Et j'ai même dit dans la thèse que je lui ai consacrée, crucicentrisme. La théologie de Monod est centrée sur la croix, le sang de Jésus qui a été versé, qui a coulé pour notre salut. Je pointe une deuxième chose dans ce texte, le dépassement de ce qu'on appelle le religieux. Et ça me semble très intéressant et très significatif. Et déjà, l'affirmation claire d'un christianisme social qui va au-delà de ce que nous appelons aujourd'hui peut-être un christianisme social quand il nous dit que Jésus détient la clé des problèmes, même politiques. Voilà ce que je pointe pour l'instant, mais on pourra y revenir. Ensuite, sa paroisse de Rouen, de 1898 à 1907. Et c'est pendant qu'il est dans cette paroisse qu'il fait ses deux thèses, qu'il écrit ses deux thèses. La première de licence soutenue à Montauban, la deuxième de doctorat soutenue à Paris. Montauban et Paris étaient un peu opposés, comme Montauban plutôt orthodoxe, Paris plutôt libéral. Et ces deux thèses sont sous le même titre, l'espérance chrétienne. C'est une théologie de l'espérance. On cite souvent Moltmann aujourd'hui comme théologien de l'espérance, mais lui déjà. Et avec chaque fois un sous-titre, l'espérance chrétienne pour sa thèse de licence, le roi, et pour son doctorat de théologie, le royaume. Le roi, c'est Jésus. Une fois de plus, c'est clair, c'est net. Le royaume, royaume de Dieu. C'est le grand thème, un peu emblématique et pas toujours très discernable ou cernable, d'un christianisme social. On lutte pour l'établissement du royaume de Dieu déjà sur cette terre. Ensuite, Paris oratoire, de 1907 à 1938. Il est pasteur à l'oratoire du Louvre, où son père Théodore, d'origine méthodiste, et on sent ce méthodisme dans la théologie de Wilfred Monod. Théodore avait fait des études, son père, aux États-Unis. Et on a plusieurs cantiques de Théodore Monod dans notre recueil « Louanges et prières », où son grand-père paternel Frédéric, je vous l'ai dit, où son arrière-grand-père Jean et où son grand-oncle Adolphe, grand-père de sa femme, ont été pasteurs. Il passe comme chat sur braise dans ses mémoires sur le fait, je ne sais même pas s'il le dit clairement, parce que c'est quand même un peu surprenant, qu'il succède ici à son père. De 1907 à 1909, il donne un cours libre sur le christianisme social à la faculté de théologie de Paris. On avait le droit d'enseigner librement à la faculté une fois qu'on était docteur en théologie. Je ne sais pas si cette règle persiste ou non. Très intéressant ce cours qui n'est pas publié, qui va du marxisme à Charles Gide, le frère du père d'André. C'est assez audacieux parce que je me rappelle quand j'étais en faculté de théologie à Lausanne, que nous avions, nous, étudiants, demandé à nos professeurs de nous parler de Feuerbach, de Hegel, de Marx, estimant que c'était important, et cela nous avait été refusé. Et vous voyez que lui, en 1907, donne un cours sur ces questions-là. La faculté de théologie, il y est nommé en 1909, à l'âge de 42 ans, comme professeur de théologie pratique. Il succède au père de la missiologie en France, c'est Vaucher, et il donnera sa démission en 1937 dans des circonstances très pénibles. Si vous voulez, on y reviendra. Ses successeurs seront Lestringant, Casalis, moi-même, puis Raphaël Picon. Le 12 août 1915, il s'inscrit au Parti socialiste pour l'anniversaire de l'assassinat de Jaurès et en hommage à sa mémoire. Le Parti socialiste était un parti révolutionnaire à l'époque, il n'y avait pas encore de parti communiste. Le 20 avril 1923, il crée, comme tu l'as rappelé, ce tiers-ordre, cette communauté laïque des veilleurs qui existe toujours aujourd'hui, comme ce qu'il crée en 1911, la clairière dans le centre social du quartier des Halles. C'est très intéressant de voir que finalement subsistent de lui aujourd'hui ces deux œuvres qui représentent exactement ce qu'il a voulu, c'est-à-dire défendre un christianisme spirituel, les veilleurs, et un christianisme social, la clairière, dans un quartier déshérité des Halles à l'époque. Christianisme spirituel, christianisme social, c'est remarquable finalement que lui qui voulait tenir les deux bouts de la chaîne, ben, ces deux réalités-là subsistent aujourd'hui. En 1925, il participe activement à la grande conférence, la première, en gros, on peut dire conférence écuménique, hein, Vie et Action de Stockholm, conférence universelle pour un christianisme pratique. Et il rédige même le message final qui ne porte pas sa signature, mais c'est lui qui l'a rédigé. Et il faut comprendre qu'à cette époque, lutter comme il l'a fait pour l'écuménisme et le christianisme social, c'est une seule et même chose. Une seule et même chose, parce qu'on estime que les cultes nous séparent, que les croyances nous divisent, mais que l'action sociale peut rassembler tous les chrétiens, quelle que soit l'église qui les abrite. Donc le christianisme social est le chemin d'un véritable écuménisme. Et puis il participera encore en 1927 à la conférence écuménique Foi et Constitution, qui est à l'origine du fameux département Foi et Constitution. C'est à Lausanne. Il y insiste beaucoup, comme la précédente dans ses mémoires, en rappelant qu'à Lausanne, à un certain moment, dans un culte célébré à la cathédrale de Lausanne, tout le monde s'est mis à genoux pour demander pardon pour les crimes des églises. J'y insiste parce qu'on dit souvent qu'on n'a jamais demandé pardon pour les erreurs des églises, officiellement. Oui, là, tous les délégués à genoux ont demandé pardon pour les crimes de la chrétienté. Il meurt en 43 à l'hôpital des Diaconesses. Un fait qui me paraît intéressant, c'est que Monod inscrivait dans des grands registres tout ce qu'il faisait chaque jour, mais heure après heure. On peut faire une biographie de Monod heure par heure. Et je cherchais en vain, quand il procédait à ses services funèbres, parce qu'il n'y avait jamais la mention d'un service funèbre. Je tournais les pages, jusqu'au moment où j'ai découvert que chaque fois qu'il célébrait un service funèbre, il mettait « affirmation de la vie ». Ce qui est quand même assez beau. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots pour cette vie. Alors, son œuvre, il y a une soixantaine de livres. C'est donc une œuvre considérable, dont la moitié sont des recueils de prédications, des sermonnaires, mais ces livres, pour certains d'entre eux, ont des proportions océaniques. Le problème du mien n'est qu'un de ces 60 livres, mais il a plusieurs milliers de pages. Beaucoup de prédications, on pouvait s'abonner à ces prédications, il était un orateur de renom. Il y a dans cette œuvre plus de 150 articles de revues, parus surtout dans la revue chrétienne qui n'existe plus aujourd'hui, la revue du christianisme social qui n'existe d'ailleurs plus aujourd'hui. J'ai été longtemps membre du comité de rédaction de cette revue qui s'est appelée finalement Autre Temps et qui avait été fondée en 1887 par le pasteur Gédéon Chastan. Avec ses inédits, ses cours de faculté, tout ça est inédit, hein, il y a au moins 20 000 pages, et ces inédits sont déposés à la Société de l'histoire du protestantisme français dans la cave froide, glaciale, où j'ai passé des heures et des heures. Théodore Monod m'avait quand même permis d'emporter chez moi, ce qui était quelque chose d'extraordinaire, les manuscrits de son père. Il avait autoriser la bibliothèque à ce que je puisse emporter ces manuscrits chez moi pour travailler sans être sans cesse dans cette cave. On a de lui des recueils de catéchisme, il y en a 5. Les plus connus, lisez-les si vous les trouvez, si vous les avez, gardez-les, sont la Nuée de témoins en deux tomes. Il fait une histoire du christianisme, de son aurore avec Saint-Pierre à son temps, hein, avec des hommes comme Gratry et d'autres, et uniquement à travers des figures. C'est absolument passionnant. Ce qu'il écrit sur Saint-Jean Chrysostome, c'est un roman policier. C'est incroyable. Ça vaut le coup d'être lu, je vous le conseille fortement. Mais il y a d'autres recueils, puisqu'il y en a 5, et dans ces 5 recueils domine toujours la notion de royaume de Dieu. Il y a son gros livre que je cite troisièmement sur le problème du bien en plusieurs tomes, une espèce de journal consacré à ce qui a été le grand tourment de sa vie, la théodicée, le problème du mal. Alors lui dit le problème du bien parce qu'il disait de manière un peu apologétique, quand les agnostiques, les athées, les douteurs m'interpellent en me disant pourquoi le mal, moi je leur réponds pourquoi le bien. Donc il appelle ça le problème du bien. Vous trouvez l'essentiel de ce qu'il dit là dans un livre qui a été réédité aux croyants et aux athées, un recueil de plusieurs conférences, de plusieurs textes. Ce recueil a été publié aux éditions Phénix en 2001, donc il est disponible en principe. Dans ce livre, il pose effectivement ce problème du mal. Il a été très, très frappé par 3 événements qui ont même suscité chez lui une sorte de dépression. La catastrophe de Courrières, où 1200 ouvriers sont morts, des mines, hein, de houille dans le Pas-de-Calais en 1906. Puis la catastrophe du Mont-Pelée à la Martinique, l'éruption volcanique à Saint-Pierre de la Martinique, 30 000 victimes. Pourquoi le mal ? Et le tremblement de terre de Messine, en Sicile, en 1908. Et c'est à partir de ces événements qu'il s'interroge et se demande, on pourra y revenir peut-être, pourquoi le mal ? Et il va jusqu'à dire, et on retient souvent que ça, et je crois que c'est une erreur de Wilfred Monod, qu'il y a en fait deux dieux. Un dieu, une sorte de démiurge qui est le créateur de ce monde avec tout le mal qu'il contient et qui n'a rien à voir avec le dieu de Jésus-Christ, qui est un dieu d'amour, qui est le dieu de la croix et qui est le dieu auquel nous croyons. Alors il écrit ça dans ses conférences, dans ses articles, il ne l'a jamais dit en chair en tant que tel, parce qu'il essayait de rester quand même dans la grande tradition des églises, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en chair, il insiste beaucoup sur le Dieu de Jésus-Christ, voilà le Dieu auquel nous croyons. Alors attention de ne pas jeter dans un prétendu protestantisme libéral ce qu'il dit là de deux dieux, parce que ça n'a rien à voir ni avec le protestantisme libéral ni avec l'orthodoxie. C'est une affirmation qu'on a trouvée parfois dans l'histoire du christianisme et qui le conduit au contraire à une sorte de réduction très orthodoxe du Dieu de la croix, du Dieu de Jésus-Christ, le seul Dieu auquel je crois. Je signale pour montrer quand même le décalage qu'il y a quelques années, on se réunit, les deux pasteurs qui sont là et moi-même, avec d'autres pasteurs, un petit groupe de pasteurs libéraux, une fois par mois, ici, à l'oratoire, et qu'on avait décidé, sous la houlette de Gilles Castelnau, d'écrire chacun une confession de foi. On a écrit chacun notre confession de foi pour les accompagner, on les a lus, et on a remarqué, mais on n'avait pas du tout voulu, qu'aucune de ces confessions de foi ne parlait de la croix. Aucune. C'est vous dire la distance. Alors Wilfred Monod, c'est la première chose dont il aurait parlé. Souffrance injuste, souffrance animale injuste, pourquoi les animaux souffrent, pourquoi ces combats sanglants dans toute la nature qui met autant d'ingéniosité à susciter la vie qu'à la détruire. Et le dernier livre de Wilfred Monod, publié après sa mort, s'appelle « Quand même ».« Quand même », »,« Je crois quand même », »,« Je crois malgré tout ». C'est assez luthérien, ce « quand même hein. ». Luther a beaucoup insisté sur le « trotz », »,« Nous croyons quand même ». Et puis, il y a plusieurs œuvres d'ordre apologétique, de dialogue avec les libres penseurs, avec les athées, avec les catholiques, avec les fondamentalistes. Je cite trois de ses livres, « La fin d'un christianisme » en 1903, et pas du christianisme, mais il y a un certain christianisme qui est derrière nous. « Peut-on rester chrétien ?» en 1903 aussi, et « Jésus ou Barabbas » en 1925. Mais il y a en plus de ces livres de nombreuses œuvres de spiritualité, des méditations, des recueils de prières, des réflexions pour accompagner la scène qu'il appelle le sacrement du silence. Il tient donc les deux bouts de la chaîne, comme je vous ai dit, cette volonté, christianisme spirituel, christianisme social. Ce christianisme social était très provocateur en chair à l'époque et il n'a jamais pu être véritablement attaqué parce que simultanément il défendait toutes les options les plus classiques, voire les plus traditionnelles, d'un christianisme spirituel. Je voudrais insister aussi sur son style, qui est très imagé. Il y a un afflux d'images dans les livres de Monod absolument impressionnant. Si on voulait consacrer une thèse à ces images, mais il y en a plusieurs milliers. Je vous ai dit déjà 400 prédications publiées, et dans chacune de ces prédications, il y a déjà deux ou trois images, chaque fois, différentes. Ce qui fait déjà, vous vous rendez compte, plus toutes les autres. Et un style très imagé, il était peintre. On a de lui, je vous ai dit, hein, contempler le Christ, on a de lui des tableaux à la Société de l'Histoire du Protestantisme français. J'ai toujours espéré que la famille Monod m'offrirait un de ces tableaux de Wilfred Monod qui croupit dans la cave. Non, mais je n'ai pas osé le demander. Hein. Non, je n'ai toujours pas ce tableau. Alors, je vous lis un passage pour vous laisser entendre la qualité de ce style. C'est un passage qu'il intitule « Le bateau missionnaire ». Je me souviens d'une incomparable nuit qui s'épanchait diaphane en nappe de laiteuse lumière sur notre globe. C'était aux environs de Rouen, à Pont de l'Arche, où je devais prêcher l'évangile à bord du bon messager, un bateau missionnaire aménagé en salle flottante pour atteindre ici et là dans nos campagnes, les riverains de nos cours d'eau. Sous un firmament solennel, mais qui semblait sourire de clarté, j'avançais à travers des herbages, étalés au ras de la Seine. Quand j'atteignis les roseaux du fleuve, je distinguais sur l'autre rive les humbles feux du beau messager, lueurs amorties par la féerie lunaire. Le silence était si majestueux et si candide que j'hésitais à le troubler par un bruit profane en alertant l'invisible passeur. Au sommet d'un modeste poteau de bois délavé par les intempéries, une petite cloche laissait pendre une corde. Je me décidai à la tirer. Le tintement de la sonnette s'évanouit dans l'espace. Aussitôt, une barque s'ébranla en face. Des rames frappèrent l'eau, dont elles brisèrent le miroir, tels les soldats de Cromwell cassant les verrières d'une cathédrale. Malgré tout, pendant que les avirons soulevaient des reflets de lune et remuaient de lents tourbillons d'argent liquide, je n'avais pas l'impression de m'associer à un sacrilège. La beauté du site, la dignité du moment, l'attente ineffable de la rencontre avec des créatures humaines, anonymes, auxquelles j'annoncerais l'Évangile, tout cela me pénétrait d'enthousiasme tranquille et d'éternité. Quand même, ça vaut bien certains charabias des théologies contemporaines. Je ne donne pas de nom. J'ai un collègue, là je ne donne pas le nom, dont le surnom était Canal Plus, parce que pour l'écouter, il fallait un décodeur. Alors, c'est beau hein, ce passage, et on trouve là tout Wilfred Monod. Alors, troisième étape, le refus de l'aliénation religieuse. On va lire une page de 1896, alors qu'il est à Condé-sur-Noireau. C'est dans son livre « Il règnera », c'est un recueil de prédications, et vous voyez toujours « le royaume, il règnera hein. ». Et je voudrais rappeler, avant de lire cela, qu'il a publié en 1902, avant, peu après, alors qu'il était à Rouen, un livre de recueil, de recueil de prédications, qui s'appelle « Sur la terre ». Alors, ça paraît banal aujourd'hui, mais je le rappelle sans cesse, à l'époque, c'était presque choquant qu'un pasteur écrivît un livre qui s'intitula « Sur la terre ». Non, un pasteur devait écrire un livre qui s'appelle « Vers le ciel », par exemple, vous voyez, pas « Sur la terre ». Là, on a déjà le signe de quelque chose de très fort. Alors, on va lire ce texte parce qu'il me semble, on pourra le vérifier à la fin de cet exposé, que nous avons là l'essentiel de ce qu'il va dire par la suite. Qu'on ne vienne pas diviser en deux minces filets le torrent de mon activité, qu'on ne vienne pas me dire « fais deux parts de ton existence, l'une pour les choses visibles, l'autre pour les choses qu'on ne voit point, l'une pour la morale et l'autre pour la religion. Je ne veux pas connaître ces distinctions. Je ne veux pas aimer tantôt l'homme et tantôt Dieu. Vivre une vie laïque durant la semaine et vivre une vie sacrée pendant le dimanche. Je n'ai qu'une âme et cette âme n'a qu'un idéal, vivre. » C'est pas mal ça. Cette âme n'a qu'un idéal, vivre. On pourrait penser à un idéal hein, autre. Si j'aime les hommes, j'aime Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime les hommes. Cessez donc d'opposer comme des contraires les deux pôles d'une même vérité. Ne me dites pas qu'il faut choisir entre le service de Dieu et le service des hommes, entre le couvent et le commerce, et montrez-moi que je peux servir à la fois et mon Père Céleste et mes frères. Telle est la tendance de l'esprit moderne. Il est clair qu'elle prédispose notre génération à saluer en Jésus-Christ l'insondable et merveilleuse union de l'humanité et de la divinité, à s'incliner devant l'être unique en qui Dieu et l'homme ont vécu d'une vie commune. Alors là, on trouve, vous voyez, des points essentiels, le père et les frères, auxquels je reviendrai. Merveilleuse union de l'humanité et de la divinité. Il a toujours défendu l'humanité de Jésus et la divinité de Jésus. Parce qu'en lui, Dieu et l'homme ont vécu d'une vie commune. On sent là, donc, vous voyez, il faut bien percevoir ce qu'il dit là. Christianisme spirituel du côté de la divinité, christianisme social du côté de l'humanité. Mais peut-être aurez-vous des remarques à faire, si vous voulez les faire tout de suite, je vous écoute, sinon on reprendra cela en fin de parcours, parce qu'on y reviendra.
On a l'impression qu'il parle en quelque sorte de noces mystiques, et quand on a lu le texte précédent, on se demande si aujourd'hui, il ne serait pas du côté de ceux qui publient des livres, Jésus a la réponse à tous vos problèmes.
Il ne serait pas loin de cela. C'est une grosse question qu'on pourra reprendre. Il est très difficile, est-ce qu'il est orthodoxe ou est-ce qu'il est libéral ? Il est très évangélique. Il est marqué par le méthodisme. Alors je peux déjà dire ce christocentrisme qui est un crucicentrisme, l'importance qu'il va apporter à l'Église, considérable. Son insistance sur le péché, c'est pas très très libéral tout ça. J'ai découvert, j'aurais dû la photocopier, je vais pas aller la rechercher, il y avait une lettre de Sabatier, vous savez, Auguste Sabatier, un des fondateurs de la faculté libre de théologie protestante de Paris. Dans le carton, il y a toutes ces lettres. J'ai découvert une lettre de Sabatier qui répond à Wilfred Monod, qui lui reprochait de n'avoir pas suffisamment parlé du péché dans son fameux livre, L'esquisse d'une philosophie de la religion. Il y a d'autres points, naturellement, qui le rattachent à une certaine orthodoxie. Son insistance sur la scène, vous verrez, on y reviendra tout à l'heure, plus importante pour lui que la prédication, etc., etc. Alors c'est vrai qu'il évangélisait tout le temps. Il distribuait des Nouveaux Testaments aux chauffeurs de taxi. Il allait dans les débits de boissons, à l'époque, comme on disait, les débits de boissons, mais il faut voir ce que c'était, hein, pour évangéliser avec l'armée du salut. Il est un grand défenseur de l'armée du salut, je le suis aussi, j'espère que nous le sommes tous. Et tu as tout à fait raison, tu as perçu là une des fibres de Monod évangélique.
Le texte vous avez lu, me faisait un peu penser par son style.
Oui, le style.
Par le style à du huissement.
Ah oui.
On a un peu l'impression de lire du huissement.
Oui.
Et je dirais cette vision en même temps qui mélange la croyance et une vision de la nature, une présence à travers le coucher de soleil, avec ces descriptions qu'il fait, on a l'impression de lire des romans du huissement qui, lui, est un converti, n'étant pas croyant, c'était converti au catholicisme. Mais c'est, je pense que, en termes de style, en termes de vision,
c'est proche.
Très proche et très daté de cette époque.
C'est intéressant parce que moi, je ne connais pas du tout Huisson, mais je pense qu'effectivement, c'est très daté, dans le meilleur sens du mot. Mais en lisant, ne serait-ce que ces deux textes, ou l'autre que j'ai lu et qui n'est pas reproduit ici, on peut, en gros, les dater. Vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose de très littéraire hein, dans sa manière d'écrire et de parler.
Oui, mais c'est un cas assez original, je trouve, de quelqu'un qui porte une foi piétiste.
Voilà.
Mais avec des mots, je vais dire qu'ils sont d'une noblesse, je ne veux pas dire que d'autres manières s'exprimer ne sont pas nobles, mais il y a une attention prêtée à ce que le mot porte bien une foi intense.
Il y a quelque chose qui vibre.
Une recherche du mot en adéquation, pas une recherche du mot pour oui. Mot, pas d'esthétisme.
Non, il y a quelque chose qui vibre dans son vocabulaire.
Oui. Je vois vibrer en soi.
Oui, 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 absolument.
Je trouve ça assez touchant.
Oui.
Parce qu'il y a un effort à la pointe du mot.
Oui, oui, oui.
Je voulais aussi revenir sur ce
d'ailleurs, ses mémoires sont publiées chez Grasset.
Sur son engagement.
Oui, on parlera. On pourra en reparler, je ne vais pas beaucoup en parler ici.
Sinon, il y a peut-être un autre point d'originalité, c'est qu'il semble être assez manichéen avec cette réflexion que tu faisais, la possibilité qu'il y ait un démiurge et le Dieu de Jésus-Christ. Mais contrairement à ceux qui sont manichéens, il ne rejette pas le monde. Il l'aime passionnément, manifestement. Il ne dit pas qu'un autre monde doit arriver, il propose plutôt une sorte de transformation de l'intérieur. Et il y a peut-être une sorte de passion du monde même qui s'exprime dedans.
Oui. Il a été marcionné dans le problème du mal. C'est pour ça que je vous ai dit que quand il a écouté Arnac à Berlin, ça avait de l'importance, parce que Arnac a écrit un livre sur Marcion. Mais oui, oui, il aimait beaucoup le monde. Il aimait beaucoup le monde. Ça n'est pas un refus du monde. Tu as tout à fait raison. Hein. Il n'y a pas une attitude gnostique chez lui. Du tout, du tout, du tout. Ça, c'est juste, c'est un point important. Voilà, alors on continue. Cette page donc, me semble appeler beaucoup de choses à venir. Le deuxième point que je voudrais rappeler, c'est que pour lui, réduire la piété au religieux, au spirituel, au culte, hein, par exemple, c'est l'hérésie par excellence. Vous voyez, lui-même utilise le mot hérésie, mais il dit c'est l'hérésie par excellence. Il n'y a rien de pire pour lui, dans la pensée chrétienne, que cette réduction du christianisme à un christianisme spirituel. Alors, on l'a beaucoup attaqué pour ses interventions en chair en faveur d'un christianisme social. Et je fais quelques citations. Il évoque ses paroissiens de Rouen. Et il déclare que certains d'entre eux se rendent au culte en se disant « Je vais entendre un sermon dans lequel on me parlera enfin de religion au lieu de m'octroyer des conseils sur la manière de dépenser mon argent. Après tout, si je me rends dans le sanctuaire, c'est pour qu'on m'entretienne du ciel et non de la terre. » Et il écrit ailleurs, c'est toujours à Rouen, « Il s'établit des distinctions, c'est des prédications, hein, des distinctions étranges entre la religion et la philanthropie, entre le culte et la bienfaisance, au point qu'on accorde aux prédicateurs le droit de prêcher le réveil religieux de l'Église, tandis qu'on lui dénie parfois la liberté de prêcher la réforme sociale, la réforme des lois, des institutions et des mœurs. » Et de ces paroissiens toujours, toujours à Rouen, « Ils ont été surpris que je ne parle pas seulement de foi, de prière, de piété, de vie future, mais que je laisse les bruits du dehors pénétrer dans le sanctuaire. Ils se sont demandé pourquoi j'abordais parfois en chair ce qu'on est convenu d'appeler la question sociale. Est-ce que les thèmes traditionnels du péché, de la conversion, du jugement dernier ne suffiraient plus à défrayer la prédication ?» Ailleurs, il constate que même les fidèles qui confessent dimanche après dimanche la royauté universelle du Christ agissent dès le lundi, je le cite, « comme si l'empire de leur Seigneur n'excédait pas les limites matérielles du temple, chrétiens au pied de la chair, ils cessent de l'être derrière un comptoir. Chrétiens, quand ils tiennent un livre de cantiques, ils cessent de l'être quand ils tiennent un journal. » Dans une prédication consacrée au bon samaritain, il déclare toujours à Rouen que si leur temple, comme celui de Jérusalem, donc leur temple paroissial de Rouen, devait n'être qu'un lieu sacré où l'on chante et où l'on bénit, si les membres de cette église devaient chaque dimanche, en quittant le sanctuaire, traverser le monde en indifférent, spectateurs désintéressés ou craintifs des souffrances et des iniquités contemporaines, alors nous serions plus qu'une assemblée inutile de sacrificateurs et de lévites, propres aux rites religieux, impropres à la vie évangélique. Et dans deux prédications différentes à l'oratoire. Méditez donc l'Évangile et dites si les défenseurs d'un idéal purement spirituel et individualiste ont le droit d'accaparer Jésus-Christ. Et ailleurs, vouloir confiner l'Église dans la liturgie, le rite, la piété individualiste ou l'émotion mystique, c'est l'hérésie par excellence, l'hérésie païenne, dit Charles Tocqueville de l'oratoire en 1933. Je dirais une troisième chose, c'est au sujet de la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905, des églises et de l'État, non pas de l'église et de l'État, comme on dit, comme s'il n'y avait qu'une église. Il était à la fois pour et contre. Bon, il voit bien le danger d'une église qui utilise l'État pour des fins suspectes, ou l'inverse. Mais l'expression d'association cultuelle lui fait peur. Les paroisses sont reconnues officiellement comme des associations cultuelles. Elle dit, mais si c'est ça que nous sommes, alors c'est la catastrophe. Donc cette séparation des églises et de l'État va le pousser à affirmer encore plus son christianisme social. Et je me rappelle un ministre de l'Intérieur en France, dont là encore je ne dirais pas nécessairement le nom, qui à un moment où des chrétiens avaient pris des positions très engagées sur le plan social et politique, leur a dit « Vous n'avez rien à faire dans ce domaine-là, vous êtes dans le cadre d'associations cultuelles. » Point. Vous voyez, il sentait bien le risque et le danger de cette appellation. Quatrième point, pour lui, la pratique authentique de l'Évangile n'est pas non plus le christianisme social exclusif. Il dit qu'il faut, c'est ce qu'il appelle l'Évangile intégral, il faut prêcher l'Évangile intégral. Il y a dans la Bible les deux, il y a la spiritualité et il y a un christianisme social chez les prophètes, dans le Magnificat, dans les Béatitudes, il y a cette dimension et on est infidèle à l'intégralité de l'Évangile si l'on se cantonne soit dans le spirituel, soit dans le social. Et cette thèse, c'est très bien vendu ce livre, je l'avais écrit dans un style qui peut parler à tout le monde, hein, pas réservé à des universitaires, parce qu'elle venait après mai 68 où on s'invectivait, je ne sais pas si vous vous le rappelez, dans nos églises, il y avait des partisans de la spiritualité, et puis le social n'a rien à faire là, c'est de la révolution, c'est pas le christianisme, et puis l'inverse. Hein. Et je montrais, le titre était « Christianisme spirituel et christianisme social », que Wilfred Monod nous parlait toujours, parce qu'il avait fondé la réconciliation entre ces deux tendances que l'on dit parfois antithétiques. Cinquième point que je souligne, il y a chez lui le refus de l'individualisme protestant. Ça, c'est aussi à interroger. Parce qu'il a voulu dépasser le jeu de cet individualisme à travers deux données, comme je vous l'ai dit, le « nous » de l'écuménisme et le « nous » du christianisme social. Et la scène est pour lui l'expression par excellence, la Sainte Cène, hein, de ce dépassement, et n'est pas qu'une communion avec le Dieu de Jésus-Christ verticale, elle est surtout une communion horizontale, elle doit marquer un partage pour un repas où nous luttons pour nourrir les affamés. Il avait mis en œuvre quelque chose qui n'existe plus d'ailleurs à l'oratoire. Chaque fois qu'il y avait la Sainte Cène célébrée à l'oratoire, il faisait donner un repas aux plus pauvres du quartier des Halles. Le même jour. Si je puis dire à la même heure, à midi. Pour montrer cette indispensable solidarité. Vous savez que les récits de la multiplication des pains dans les évangiles sont construits avec la même structure que les récits de la Cène, avec les mêmes verbes introductifs, Jésus remercie, Jésus rompt, Jésus distribue, etc., etc. On a les mêmes verbes. Chaque multiplication des pains nous est présentée comme une scène, et la scène nous est présentée comme une multiplication des pains. Et je vous cite deux choses qu'il dit ici à l'oratoire. La table de communion n'est pas au pied de la chair. Ceux qui sont entrés dans l'oratoire savent ce que ça veut dire, quand on affirme ça. La table de communion n'est pas au pied de la chair. Non, c'est la chair qui est dominée par la table de la Sainte Cène. Sainte Cène dont il dit qu'elle est le couronnement du culte. C'est presque catholique, ça, c'est presque catholique.
Bercier ne le disait pas aussi.
Dicentre, oui. Bercier dicentre. Oui, oui, oui. Il ne dit pas vraiment couronnement. Hein. Parce que le sommet de la messe, c'est quand même l'Eucharistie. Hein. Moi, je dis toujours que le sommet de notre culte, c'est l'autre. C'est quand on sort du culte et qu'on est sur la place publique, c'est l'autre. Et il voudrait qu'on célébrât cette scène chaque semaine, dans sa plénitude et son originalité, c'est ça la spécificité pour lui du culte. Centre du culte chrétien, dit-il encore. Ce n'est pas une position réformée stricte, là. On est bien d'accord, je suppose. Alors, quatrième étape, je repère les indicants, mais je ne vais pas... Il faudrait faire là un exposé entier là-dessus. Cinq données sur lesquels il revient sans cesse, qui fondent pour lui un christianisme à la fois spirituel et social. Et je vous les ai mises d'ailleurs. Le sommaire de la loi, qui nous dit d'aimer Dieu et notre frère et ses sœurs, vous avez vu, inséparable, hein, comme il le dit. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Donc ces deux commandements définissent un christianisme spirituel et social et ont un retentissement. Quand nous disons notre Père, ça n'a aucun sens si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que nous soyons frères et sœurs. Sur cette terre, pas seulement dans nos temples. Donc sans cesse cette insistance sur cette première donnée duelle. Hein, il y en a six comme ça. Une deuxième, c'est le Notre Père et le Notre Pain. Alors ça, vous savez que je le reprends sans cesse dans mes prédications, dans la prière qui unit tous les chrétiens. Le Notre Père, comme on dit, les premières requêtes qui concernent Dieu commencent par Notre Père, et les premières requêtes qui concernent l'être humain commencent par Notre Pain quotidien. Donc il faut unir le Notre Père, Notre Pain. Et je ne suis pas tellement d'accord avec ceux qui, comme c'est assez fréquent, commentent le Notre Père en disant que le Notre Père, c'est le pain spirituel. Je crois que là, il nous est demandé un partage, c'est un christianisme spirituel et social. Le Notre Père et le Notre Pain. Comme j'aime à le dire, vous savez, les étudiants maintenant, ils savent. Hein, si on veut dire ce que Gainsbourg nous a dit pendant 4 ans, joindre les mains... C'est rejoindre les autres. Voilà. Alors ça, c'est de moi, hein, c'est pas de Wilfred Monod. Mais c'est exactement ça qu'il veut dire. Joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Notre Père, notre Pain. D'ailleurs, c'est suspect le fait qu'on l'appelle notre Père. C'est déjà de l'aliénation religieuse. Déjà, on réduit la prière au notre Père. Or, c'est notre Père, notre Pain. Le véritable titre devrait être, nous allons dire ensemble, notre Père, notre Pain. Bon, je l'ai fait parfois, ça surprend un peu, mais enfin.
Mais parce que c'est quand même le pain épiousios, un peu le pain surnaturel quand même.
Épiousios, la traduction est discutable. Hein? Alors, notre Père, notre Pain. De toute façon, dans la mentalité sémitique, c'est très difficile de séparer le corps et l'esprit. Donc le pain est à la fois spirituel et matériel, à mon avis. Ensuite, nous l'avons vu dans ce texte qu'on lisait tout à l'heure, la nature divine et la nature humaine du Christ, il n'utilise pas le mot « nature », disons la divinité et l'humanité du Christ fondent une théologie et une anthropologie, un christianisme spirituel et un christianisme social. Et puis, il y avait une autre chose, c'est le credo et le programme. Il revient souvent, il dit « nous, nous avons des credos et les hommes politiques ont des programmes ». Mais il nous faut réconcilier les deux, nous devons avoir et des credos et des programmes. Et puis, dernière chose, Messie et messianisme. André Dumas aimait bien insister là-dessus. Vous voyez qui est André Dumas, je suppose, théologien protestant, qui était professeur d'éthique et de philosophie à la faculté de théologie protestante de Paris. C'est Olivier Abel qui lui a succédé. Eh bien, Dumas aimait bien cet aspect-là de la pensée de Monod. Monod disait, nous, on a un Messie, on n'a plus de messianisme. On ne combat plus pour le royaume de Dieu, on n'a plus cette catégorie de l'espérance, on n'a plus ce souffle eschatologique. Et puis les autres, bien sûr, vous voyez les socialistes, les marxistes, etc., eux ont un messianisme, les lendemains qui chantent, etc., mais ils n'ont pas de messie. Et il faut que nous ayons un messie et un messianisme. Alors j'en arrive à mes conclusions. D'abord, le christianisme social trouve sa source dans le christianisme spirituel. Dans la nuée de témoins que je vous citais tout à l'heure, hein, ce recueil d'une histoire de l'Église à travers ses figures qui servaient de catéchisme, ainsi le christianisme social coule invariablement, intarissablement du christianisme spirituel. C'est parce que nous nous tournons vers notre Père que nous nous tournerons vers nos frères. Il n'y a pas une hiérarchie dans ces deux réalités, il y a une précédence. Toujours dans ce livre-là, à propos du passage où il parle de Tommy Fallot, vous voyez, il va jusqu'à des contemporains hein, dans cette histoire de l'Église, il cite Fallot qui dit que le christianisme de Jésus est de tous les âges et qu'il a été social parce qu'il a été spirituel. Social parce qu'il a été spirituel. Et dans Après la journée, donc ses mémoires, mon christianisme dit social ne fut jamais que mon christianisme spirituel pris au sérieux, porté à l'incandescence. Deuxième remarque, mais Wilfred Monod va nuancer ce que je viens de vous lire de deux manières différentes. D'abord, servir, c'est adorer. Il peut y avoir dans le service du prochain une manière qui est finalement une adoration. Deuxièmement, fidèle à une des thèses de l'armée du salut, une réforme sociale peut être indispensable ou la condition à une approche spirituelle. Allez dire à quelqu'un qui crève de faim, ben, Dieu vous aime, ou... la spiritualité, c'est merveilleux, ben, c'est pas ça. Hein. Une réforme sociale peut être la condition spirituelle. Soupe, savon, salut. Vous savez, c'est les grands 3 S de l'armée du salut. Troisièmement, s'il fallait choisir entre le religieux et le social, on lui met le couteau sur la gorge, c'est l'un ou l'autre. De toute façon, il dira, c'est une hérésie, hein, l'un ou l'autre. Mais à choisir entre les deux hérésies, il choisit l'hérésie sociale. Donc ça nuance quand même ce que je vous ai dit. Hein. Et dans Certitude, c'est un recueil de prédications de 1911 sur le fameux Matthieu 25. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, malade, vous m'avez visité. Vous connaissez ce magnifique passage de Matthieu 25. Eh bien, il dit ceci, aux yeux de l'Éternel, à l'heure décisive des comptes à rendre, je me rappelle... avoir cité cette parole ici en chair une fois, puis Marc Pernaud est venu me dire « Ah, cette parole, ce qui suit est tellement beau, c'est quand même dommage que ce soit précédé par l'idée du jugement dernier. » Tu te rappelles? Oui, alors, tant pis, c'est Wilfred Monod. « Aux yeux de l'Éternel, à l'heure décisive des comptes à rendre, mieux vaudrait avoir vécu sans religion que d'avoir vécu sans amour. Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. » Alors, on peut citer la fin seulement. Hein. Mais c'est beau, c'est très beau. Quatrième remarque, Le refus, on l'a vu dans ce texte qu'on lisait tout à l'heure, hein, le premier texte, le refus d'opposer le spirituel et le social, c'est le refus d'opposer le sacré et le profane. Il n'y a pas du sacré et du profane. L'empire du Christ, il écrit ceci, concerne notre vie tout entière. Il n'appartient pas aux églises, dit-il, de Jésus, il appartient à l'humanité. Il n'appartient pas à la religion, il appartient à la vie. Là encore, c'est magnifique. Jésus appartient à la vie. C'est Bonnefer, vous savez, Dietrich Bonnefer, dans ses lettres, qui, celle du 18 juillet 44, écrivait, dans celle du 18 juillet 44, Jésus n'appelle pas à une religion nouvelle, mais à la vie. C'est presque la même chose. C'est le théologien contemporain dont je le rapprocherai le plus volontiers, hein, Dietrich Bonnefer. Et puis, cinquième et dernière remarque, il a à plusieurs reprises parlé de ce qu'il appelle la double question. Quand il y a des choix, des engagements, des décisions à prendre dans la vie, il se posait toujours une double question. Est-ce que cela fait grandir la sainteté? Est-ce que cela développe notre spiritualité? Et puis en même temps, est-ce que ce que je vais faire dire et vouloir conduit à plus de justice, à plus de charité, rapproche les hommes et conduit à plus de fraternité? Et si la décision qu'il allait prendre, le choix qu'il allait faire ou ce qu'il allait dire n'était que l'un ou l'autre, eh bien il y renonçait. Il fallait toujours, c'est ce qu'il appelle la double question. Dans ma vie, dans mes engagements, il y a eu cette dimension, dit-il, de la double question. Alors il a beaucoup parlé de choses dont je ne parle pas ici, il faudrait naturellement un plus grand exposé, la question du logement. Ça, c'est une question très actuelle, les sans-abri, les sans-domicile fixe. C'est un thème qui revient sans cesse, hein, la question scandaleuse du logement. Il a beaucoup parlé de la condition de la femme. J'ai même écrit tout un article pour montrer le féminisme de Wilfred Monod. La femme opprimée, la femme oppressée, la femme dévalorisée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour reconquérir pour la femme une juste place? Il a parlé des enfants, beaucoup des enfants victimes, des enfants... esclaves, des enfants traités comme rien du tout, même dans leur famille, parfois. Il a beaucoup parlé du cosmos, l'univers. Un de ses catéchismes commence par une représentation du ciel, avec les étoiles. Hein. Le cosmos, il avait cette dimension d'un christianisme cosmique. À bien des égards, il est écologiste avant la lettre, et on comprend ce qu'a pu recevoir de lui un Théodore Monod. D'autre part, il y a aussi des textes incroyables sur l'argent dans ses prédications. Mais je vous promets que si on faisait la même prédication aujourd'hui en chaire de l'oratoire, on se ferait jeter. On ne pourrait pas rester pasteur.
On peut tester.
Je n'ai jamais osé tester, mais... Oui, c'est... Et d'ailleurs, je me rappelle que Roger Parmentier, ça vous dit quelque chose, le pasteur Parmentier, très, très à gauche, très vitupérant, très révolutionnaire, disait, on n'a jamais osé prêcher sur le passage de Jacques, l'épître de Jacques, où il dit, maudit les riches, vous allez croupir, etc. Vous connaissez ce passage sûrement dans l'épître de Jacques. Il dit, on n'a jamais osé prêcher ça dans les églises. Eh bien, il y a une prédication de Wilfred Monod là-dessus. Il y en a une. J'ai écrit à Parmentier pour lui dire, tu te trompes. Wilfred Monod a prêché sur ce passage-là de l'épître de Jacques. Alors voilà, je vais m'arrêter là en vous disant encore deux toutes petites choses. J'ai présenté il y a 2 ans Wilfred Monod aux étudiants de la faculté de théologie, dans le cadre d'un cours qui est consacré à des figures de proue. Et à la fin de ces 2 heures, ils ont applaudi. Ça veut dire qu'ils ne m'ont pas applaudi chaque fois que j'allais présenter une figure, hein, dans le cadre de ce cours. Mais ce cours-là, ça veut dire que Wilfred Monod leur parle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Wilfred Monod leur semble être une figure magistrale. Et puis j'ai eu une étudiante allemande dans un de mes cours qui avait suivi tout un cours sur Wilfred Monod, et qui a été passionnée par Wilfred Monod au point qu'elle a fait son mémoire de maîtrise en Allemagne sur Wilfred Monod, et qui concluait en disant, eh bien, nous, en Allemagne, on aurait un théologien comme Wilfred Monod, je vous promets qu'il serait connu dans le monde entier. Parce que nous, on ne crache pas sur nos théologiens. Nous, on fait ce qu'il faut pour les faire connaître. Nous, on fait ce qu'il faut pour qu'ils soient reconnus. Et on ne les laisse pas aux oubliettes, comme la théologie française le fait de la plupart de ces grands théologiens, à commencer d'ailleurs par Maurice Koguel, Groupi, et qu'on ne cite jamais. Voilà, je m'arrête là. J'ai craché mon venin.
Voilà, donc nous avons devant nous une bonne demi-heure pour pouvoir échanger et puis éventuellement apporter aussi de la contradiction si besoin, et hein, on peut ferrailler avec Laurent.
Ce qui m'a plusieurs fois est revenu le mot vie, la vie de l'âme, lorsque il y avait des décès.
Affirmation de la vie.
Voilà. J'aimerais que vous puissiez me décrire un peu cette vie, puisque apparemment ce n'est pas la vie de l'existence terrestre.
Eh bien,
plus étendue.
C'est intéressant que vous posiez cette question, parce qu'en lisant les citations que je vous ai faites, je me suis demandé, n'y aurait-il pas à faire une étude plus approfondie que simplement les quelques citations que je vous ai faites sur le thème de la vie. Théodore Monod rapprochait beaucoup la théologie de son père de celle d'Albert Schweitzer, hein, le grand témoin du respect de la vie, et je n'ai pas fait cette étude. Et je n'ai même pas gardé mon fichier, je jette tous les fichiers que j'ai fait sur Camus, Gide, Simone de Beauvoir, Sartre, Schweitzer, Monod, je ne garde pas pour ne pas me répéter indéfiniment. Et je ne sais pas si j'avais repéré le mot vide. J'ai beaucoup de peine à vous répondre. Mais je pense qu'il y a les deux dimensions là aussi. Hein. La vie, notre vie, la vie incarnée, la vie terrestre, la vie de solidarité, la vie où l'on mange, où on est logé, où on souffre. Et puis, la vie éternelle.
La vie de l'âme.
Oui, absolument. Mais je peux pas vous... Voyez, vous pointez un truc dont je me suis dit moi-même, il y a une insuffisance dans mon étude de Monod. Il n'y a pas ça dans mon livre. Hein. Je n'ai pas souligné un chapitre qui manque sur la vie. Qu'est-ce qu'il entend par vie exactement? Mais je pense que c'est assez proche d'Albert Schweitzer, le respect de la vie. Albert Schweitzer qui n'a pas un respect... qui serait une adoration de la nature, hein, faut bien savoir. C'est pas du tout ça chez Albert Schweitzer. Lui qui est médecin, il commence par respect de la vie, par détruire et tuer les microbes, hein, c'est la vie, ça aussi.
Oui, mais ça, c'est sa formation de base qui est médecin.
Oui.
Après, il a fait sa théologie.
Non,
c'est l'inverse.
Il fait médecine à 30 ans.
Il a fait philosophie, doctorat en philosophie, théologie, doctorat en théologie, puis la médecine à l'âge de 30 ans. Mais c'est ce respect de la vie, c'est d'ailleurs une expression dont il estimait qu'elle était imparfaite, dans la mesure où elle semble avoir quelque chose d'un peu passif, d'un peu une adoration contemplative, le respect de la vie. Non, chez Schweitzer, c'est un combat pour la vie. Et je dirais que chez Monod, il y a de ça, mais qui traverse toute cette question qui revient sans cesse. Quasiment pas de prédication où il ne parle de la souffrance animale, la souffrance des animaux. On trouve ça aussi chez Albert Schweitzer, hein, la souffrance des animaux. Mais pour lui, c'est tragique, le mal est partout. Il parle de cette entre-dévoration des animaux. Je me rappelle le pasteur Marshall qui reprenait une expression de Monod en disant « Le lion, c'est de la gazelle digérée ». Et ça, c'est aussi Monod, la nature est un vaste tube digestif. Mais c'est tragique que pour vivre, il faille tuer. Parce qu'une feuille de salade, même si vous êtes végétarien, c'est quand même un prodige de vie et d'organisation, hein, ça n'est pas rien. Vous n'avez pas mangé que des minéraux. On n'en mange qu'un, d'ailleurs, c'est le sel, séparé.
Je repérais que vous avez parlé, nous avons besoin de respect de la vie.
Oui.
Pour la vie.
Oui, absolument.
Les deux
absolument, les deux s'appellent. Oui.
Deux faces de l'être vivant.
Oui, le respect pour la vie, c'est la question sociale qui est moins ardente dans la pensée d'Albert Schweitzer. Albert Schweitzer était quand même très luthérien et avait tendance à séparer, vous savez, le spirituel et le politique. Et il a beaucoup hésité, Albert Schweitzer, à intervenir contre l'usage atomique pour l'armement, hein, parce qu'il était luthérien. Il l'a fait, finalement.
Pour poser une question, justement, sur l'engagement politique,
oui.
Je précisais qu'en 1915, il rejoint les rangs de la SFIO, qui était un parti très composite à l'époque,
oui.
Alors effectivement avec différentes tendances, mais qui va aboutir en 1921, voilà, congrès de Tours, donc la création de la section française de la nationale communiste, et donc la séparation oui. du Parti socialiste et du Parti oui. communiste. Alors d'abord, que va-t-il faire à cette époque? Est-ce qu'il va continuer son activité politique pendant le reste de sa vie, puisqu'il adhère en 1915, que va-t-il faire après? Et puis aussi, par rapport à Jésus, quelle image avait-il? Puisque au XIXe siècle, des gens comme Pierre Leroux, des gens comme Cabet, parlent d'un socialisme chrétien, parlent du camarade même, du camarade Jésus. C'est le socialisme qu'on trouve 48 ans. Quelle est sa vision du christianisme? Est-ce qu'il a une vision proche de celle qu'on pouvait trouver à cette époque, donc au XIXe siècle? Et puis aussi, donc, quel va être son parcours politique à partir de son adhésion à la SFI?
Alors, comme je vous ai dit, vous avez raison de le rappeler, hein, il n'y avait pas encore le Parti communiste. Hein, donc c'était quand même un geste fort à l'époque de s'inscrire, comme je vous l'ai dit. Mais il n'est pas resté inscrit. Hein. C'était un hommage rendu à l'anniversaire de la mort de Jaurès. Il n'est pas resté inscrit au parti. Son parcours politique, je ne sais pas exactement. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand vous le lisez dans son dialogue avec les athées, Jésus est pour lui un peu ce que vous dites, ce frère, ce maître d'un certain communisme. Oui. Mais politiquement, il n'y a plus de parcours politique en tant que tel chez lui. Il n'y a plus de parcours politique en tant que tel. Moi, je me suis inscrit dans un parti, je ne sais plus en quelle année. Vous ne direz pas lequel. Et Jacques m'a dit un jour que je n'avais pas le droit, je suis suisse. Il m'a dit, mais vous n'aviez pas le droit de vous inscrire dans un parti comme étranger, vous n'avez pas le droit. C'est interdit. Bon, voilà. Mais à l'époque, ça faisait, je veux dire, dans les années 70, quelque chose comme ça. Mais à l'époque de Monod, c'est autre chose. Il faut se replacer dans les contextes, c'est autre chose.
C'est la Première Guerre mondiale aussi.
Mais oui. Alors, la Première Guerre, les guerres et Monod, c'est un problème, ça aussi. Le pacifisme, il était pacifiste, puis après, vous savez, tous les pacifistes, ils mettent de l'eau dans leur vin une fois que la guerre est là.
C'était l'Union sacrée.
Ben oui.
Les socialistes, pour la plupart, étaient membres du gouvernement.
Donc, vous voyez la question.
Et le rapport du chrétien par rapport à la politique, pour moi, Monod, c'était aussi un petit peu la même chose, mais je ne connais pas assez. Le rapport du chrétien à la politique, c'est pas tant de dire, pousser les chrétiens à dire, il faut choisir un parti, tu t'engages dans ce parti, que de dire, il y a un engagement. Tu vas dans le monde, tu vas sur des problèmes, tu prends fait des causes d'une manière ou d'une autre, des pétitions, des choses pas, il y a une multitude d'actions, et c'est cette voie intérieure que semble se dire dans un homme qui est chrétien, tu dois t'engager si tu es chrétien. Tu ne peux pas rester un spectateur.
Alors là, je t'entends bien, cher ami Perrier, mais Monod n'aurait pas dit ça.
Il aurait dit ça.
Il aurait dit qu'il faut choisir ça et pas ça.
Alors comment se fait-il qu'il n'ait pas été foutu dehors?
Ben voilà, c'est bien la
ça,
question.
C'est
la question que je vous pose. Je vous dis qu'aujourd'hui, il serait foutu dehors.
Parce qu'il a quand même des actualisations du texte biblique très marxistes.
Tu te rappelles, j'en ai publié une un jour, mais c'est incroyable. c'est incroyable. Non, 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 c'est très spécial. Hein. Alors.
Il ne laisse pas de libre interprétation
non,
du texte
non, non,
paroissien.
Il ne dit pas il faut vous engager, l'essentiel, engagez-vous. Non, non, engagez-vous comme ça, hein, il le dit, et pas comme ça. Hein. Et j'en avais parlé une fois avec Jean Bobéro, vous savez, qui est quand même un grand, grand connaisseur du christianisme social, et qui disait, lui, alors c'est très bizarre, qu'il se demandait si le fait qu'on n'était pas séparé de l'État pendant très longtemps ne protégeait pas mieux les engagements politiques que quand on est séparé. Il se posait cette question. Finalement, est-ce qu'on n'est pas plus libre de critiquer certaines options dans une union de l'Église et de l'État que dans la séparation? Et j'ai Bernard Raymond, qu'on connaît ici tous, qui est dans une église nationale, vous savez, l'église vaudoise. Le statut des églises en Suisse est cantonal, il n'est pas fédéral. Hein. Et l'église vaudoise, si j'étais resté dans le canton de Vaud, le jour de ma consécration, j'aurais dû prêter serment devant le préfet. Bon. Donc, et Raymond me disait la même chose. Finalement, on a peut-être plus de liberté que dans cette séparation où les gens veulent vraiment opposer les choses, séparer les choses, et quand vous intervenez dans un domaine social et politique, c'est très mal vu. C'est une analyse, je ne vous dis pas qu'elle est juste ou fausse, mais c'est intéressant d'entendre deux spécialistes, comme Bobéro, qui n'est pas n'importe qui, et Raymond non plus, et qui ne se sont pas concertés là-dessus, me dire la même chose. Oui. Alors, mystère et boule de gomme.
On ne les entend pas plus que les pasteurs de l'intérieur.
Non, je n'ai pas l'impression. Hein. Pas l'impression. Oui.
J'ai lu des mémoires. Mon grand-père était. Il a fait la Première Guerre mondiale. Donc en fait, il était né, je ne sais pas moi, en 89 ou quelque chose comme ça. Et donc il était gamin, adolescent.
Celui qui travaillait dans les chemins de fer, c'est sûr.
Mais c'est avant quand il est.
Oui.
C'était avant, c'est quand il était lycéen, quoi, en fait.
D'accord.
Ses parents, ils regardaient sur la feuille rose, ils disaient, bon, vous voyez, voir qui prêche, est-ce qu'on va au culte, est-ce qu'on va pas au culte, voilà, est-ce qu'on va voir les premiers aéroplanes de quelque part. Et bon, ils vont laisser Wilfred, on va y aller. Et alors, il y avait du monde jusque dans les tribunes, il y avait donc, mais à la sortie, les gens débattent, ne sont pas d'accord, etc. Il ne faut pas croire que les gens, ça ne les dérangeait pas. Ils avaient un bonhomme qui était original, il y avait là quelque chose qui posait question, il y avait quelque chose qui était bien dit. Bon, je veux dire, ensuite, ils n'étaient pas dupes, ils n'étaient pas forcés d'être d'accord ou pas d'accord. Je veux dire, ils étaient dans une liberté de pensée par rapport à ce que disait le pasteur,
oui.
Plus grande encore que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui encore, quand les gens ne sont pas d'accord, ils ne se privent pas de le dire, mais ils ne sont pas du tout obligés d'être d'accord. Mais peut-être, à l'époque, c'était carrément flagrant. Surtout face à un bonhomme pareil, en fait.
Oui. Il a écrit des mémoires, ton grand-père?
Oui, il y avait un petit journal, en fait. Oui. C'était pas mémoire, c'était son journal du jour.
Ah bon?
Et donc, il écrivait des lignes en disant, tiens, je suis en état au culte ce matin, finalement, on a vu que c'était plus frais, voilà ce qu'on pense, en fait.
Je l'ai bien connu, hein. Je les ai bien connus, tes grands-parents, qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Hein. Oui. D'autres remarques? Peut-être d'autres ans que simplement politique. Oui. Sa conception de la scène, elle n'est absolument pas dans l'ordre de la consubstantiation ou de la transsubstantiation. Sur ce point-là, il n'y a aucune hésitation. Mais elle exprime pour lui d'abord quelque chose de visuel. Je vous ai dit que pour lui, contempler Jésus est peut-être plus important que de l'écouter et de l'entendre. Donc il y a dans cette célébration de la scène une dimension visuelle qui le conduit à quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation. Mais ensuite, il insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la dimension horizontale de la scène et verticale. Verticale, il y a une communion avec le Dieu de Jésus-Christ. Et horizontal, je dois multiplier les pains et partager le pain. Ça, c'est sans cesse. Alors, il dit aussi qu'il a l'impression que les premiers cultes chrétiens, tels qu'on les voit dans les Actes des Apôtres, etc., comportaient la fraction du pain et que par conséquent, notre fidélité devrait être d'avoir la scène à chaque dimanche. C'était sa position. Est-ce que tu veux une autre réponse ou est-ce que ça suffit? Vous savez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas classer Wilfred Monod. Il est hors cadre. Pardon? Il est
atypique.
Atypique. Je pense que les grandes figures sont atypiques.
Oui, de toute façon, si on regarde même l'histoire,
oui.
Les grands personnages sont
on peut. Oui. Vous voulez un orthodoxe bontain peut se réclamer de Wilfred Monod. Un libéral très hérétique peut se réclamer de Wilfred Monod. Un évangélique, tu as souligné un point très important, trouvera chez Wilfred Monod, et j'ai connu bien des évangéliques qui admiraient beaucoup Wilfred Monod. Il dépasse les cadres. C'est là où peut-être il est intéressant. C'est un peu la même chose avec un contemporain comme Tillich. Tillich, vous avez des luthériens très stricts qui se réclament de lui et des libéraux réformés qui se réclament aussi de lui. Hein. Ces gens inclassables qui dépassent nos étiquettes et nos enfermements. C'est catholique, il est élu. Je pense qu'il n'est plus lu. Il n'est plus lu nulle part.
À l'époque où il
est élu. Oui, parce qu'il a été très influencé par des figures catholiques, dont Gratry, qui est un prêtre qu'il cite tout le temps. Oui. Il n'est plus véritablement lu aujourd'hui, hein, Wilfred Monod.
Déjà, ces ouvrages, les trouve-t-on facilement?
Ben non. Non, mais ils sont épuisés.
Oui, c'est ça.
Et
ces prédications encore.
On trouve parfois des prédications. Alors, catholique, il était son fils Maximilien Vox, s'est converti au catholicisme. Hein. Le frère de Théodore Monod, un des frères, il y a Sylvain, Théodore et Maximilien Vox qui avait changé de nom. Il était peintre et graveur, un peu pour prendre un nom d'artiste, mais parce qu'à l'époque, ça choquait quand même qu'un fils de pasteur devienne catholique. Mais Maximilien, pardon ?
Comment ça s'explique ?
Ben, il y a du catholicisme chez Wilfred Monod. L'importance de la contemplation, de regarder des figurations dans le catholicisme, bien sûr, on n'a pas ça dans le protestantisme. Je ne sais pas. Oui, ce serait intéressant, là, encore, de pouvoir dater la chose. Je ne sais plus.
Et pourquoi, alors, question par rapport à la réédition, mais pourquoi n'est-il pas réédité?
Je pense...
Il n'y a pas d'éditeur pour rééditer, mais, je veux dire, aujourd'hui, compte tenu des simplifications...
De... Oui, on pourrait le faire. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, je ne sais pas. Son style est quand même complètement démodé. Je ne suis pas sûr que ça parle vraiment, c'est ça. Est-ce qu'on aime lire des textes avec ce style-là? Moi, j'aime ça. Mais le grand public... Oui, c'est limpide, mais c'est quand même une sorte de lyrisme, une emphase. Il y a des images tirées par les cheveux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a tout. Moi, j'ai dit un peu méchamment, il n'y a de lisible de Wilfred Monod que ce que j'ai écrit sur lui. Bon, j'estime que c'est une grande figure, qu'on a tort de l'oublier, de l'ignorer, mais c'est difficile. Hein. Il y a de belles prédications, Dieu vaincu, je ne sais pas, par exemple, c'est une prédication qui s'appelle comme ça, c'est sur la croix, Dieu vaincu. Hein. La non-puissance de Dieu, il y a des très belles choses chez Wilfred Monod. C'est des prédications longues, enfin voilà. Bon.
Vous n'avez pas du tout parlé de son humour. Moi, j'ai découvert ses dessins qui sont extraordinaires.
Oui, il y a beaucoup d'humour chez lui.
Des caricatures.
Oui, il y avait aussi chez Théodore. Hein.
Oui, mais c'est Théodore et Maximilien.
Oui,
il y a ça. Qui
étaient son plus préférant. Oui.
Et les lettres qu'il écrit à Théodore, c'est toujours...
Oui.
Il y a toujours
des petits dessins comme ça. Oui. Vous avez tout à fait raison.
Le synode avec tout... Le synode avec tous ses confrères, tous les pasteurs qui vont au synode, qui sont plus ou moins...
Recroquevillés comme ça.
Beaucoup d'humour.
Alors ça, c'est une chose que les gens regrettent souvent, qu'on ne souligne pas leur humour. C'est intéressant que vous le disiez. Je me rappelle que Camus disait, on dit beaucoup de choses sur moi, on n'écrit jamais sur mon humour.
Parce que j'ai découvert dans des papiers, justement, des lettres.
Oui, que vous avez découvertes à la société.
LSHPF.
Oui, oui.
C'est plein de dessins.
Oui. Oui, et Théodore aussi, il y a plein de dessins, hein, plein d'humour. Oui, oui, il y a de l'humour. C'est
et
vrai.
Maximilien Vox, il y avait une je crois que le fond est à la bibliothèque du 6e. Il y avait eu une exposition Maximilien Vox.
Ah bon.
Avec des dessins pleins d'humour, justement, représentant le. Son père en train de faire le catéchisme.
Ah ouais.
Et tous les enfants se lançant des cocottes en papier, faisant les pitres.
Ça, c'est très connu, ce portrait-là. Je ne sais pas, vous pouvez, je peux le faire circuler. C'est Maximilien Vox qui l'a fait. C'est très beau. Hein. On voit beaucoup de choses là, dans cette représentation d'un Wilfred Monod, les yeux fermés, recueillis. Contemplant, il y a un coucher de soleil dans le lointain, etc. Je peux laisser les cartes postales qui sont dedans, parce qu'il y en a une qui est signée par Wilfred Monod. J'y tiens, elle ne m'est pas du tout adressée, bien sûr.
Où est-ce qu'on peut trouver la vie des témoins ?
Dans des...
C'est pas édité, c'est
ça a été réédité le deuxième tome, pas le premier. Vous le trouvez tout à coup dans un lot, vous savez, d'une personne qui est décédée. Vous trouverez la nuée de témoins. Moi, j'ai eu beaucoup de peine à me les procurer, à les avoir. Je les ai, les deux. L'éditeur suisse Jean-Samuel Grand, qui édite des choses tout à fait remarquables, avait l'intention, ce serait bien qu'il le fasse, de les rééditer les deux. Hein. Il le fera peut-être. C'est un éditeur suisse. Ça vaudrait le coup, hein, d'être fait. Il n'y a rien.
Absolument rien.
Et même ça, c'est plus disponible. Mais ça, vous voyez, je fais porter le poids de ce qu'on dit là sur Wilfred Monod, mais c'est aussi les théologiens français qui sont responsables. On a écarté Monod, on a fait comme s'il n'avait jamais existé, on n'en parle pas, on l'ignore. Ça, c'est très français. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais un théologien de cette envergure, même marqué par son temps, daté dans les deux sens du mot, ben, il n'y a pas de raison qu'on l'ignore, 60 livres. Il a joué un rôle international quand même, avec les conférences écuméniques. International, il était connu dans le monde entier. Il y a eu beaucoup contre lui la veine barthienne, les disciples de Karl Barth. Vous savez que le protestantisme français et son corps pastoral sont devenus à un certain moment complètement barthiens. Et les barthiens ne portaient pas Wilfred Monod dans leur cœur.
Pourquoi ?
Ils le trouvaient trop insistant sur la vie pratique, sur la vie morale, sur l'éthique. Pour un barthien, l'essentiel, c'est la révélation de Dieu. C'est pas ce qu'on fait de cette révélation. Et là, il y a eu un peu un étouffement de sa pensée. Alors qu'il est un des premiers à avoir fait connaître la pensée de Barthes en France, Wilfred Monod. Alors, on a beaucoup dit, vous savez, comme je vous ai dit, il a dû donner sa démission en 1937, un an avant sa retraite, de la faculté. On a beaucoup dit que c'était à cause de la vague barthienne, mais lui a demandé à ses collègues de prendre position à ce moment-là et personne ne l'a défendu, même les professeurs libéraux, comme Gogel, comme Vautier des Galliers. En fait, ce qu'on ne disait pas, alors il a répandu un peu, mais on essaye toujours de se défendre comme on peut, il a répandu l'idée que la vague barthienne l'avait chassé de la faculté. C'est pas exact. Les étudiants n'allaient plus à ses cours. Ils les rasaient. Parce que ses souvenirs, c'était son cours. Alors, les étudiants attendaient une réflexion en théologie pratique et pas les mémoires de Wilfred Monod. Donc, ils avaient délégué deux représentants à chacun de ses cours qui allaient au cours de Wilfred Monod. Moi, je suis parti avant que ça m'arrive. Hein. Alors,
ils prenaient les cours pour les copains.
Mais oui, il est arrivé l'inévitable. Un jour, il n'y a eu personne. Je ne sais pas s'ils sont restés endormis, s'ils s'étaient trompés, les deux qui devaient venir, ont cru que c'était à un autre cours qu'ils devaient aller. Il est arrivé devant un auditoire vide. Il a fait un scandale épouvantable. Il a demandé une réforme des études de théologie que ses collègues n'ont pas voulu faire. Et il a dû partir. C'est quand même terrible, hein, pour un homme, comme je vous dis, mondialement connu. Ça a été quelque chose de terrible. Mais là encore, est-ce que le baptisme a joué autant qu'on l'a prétendu? À bien des égards, son christocentrisme, quand même assez bartien. Hein. Assez bartien quand même. Hein.
Par contre, ce qui le distingue, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'il utilise beaucoup son expérience personnelle, notamment en Normandie,
oui,
pour remettre en cause les théologies classiques.
C'est vrai.
Quand on parle de la non-toute-puissance de Dieu, c'est son expérience du mal, en fait.
Oui, oui, il y a une théologie d'expérience, je veux dire. Oui, ça, c'est juste, c'est un point que tu soulignes, tu as raison. Ça, c'est pas du tout bartien, non. Et oui, oui, c'est vrai.
Et du coup, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il utilise des expériences qui nous sont totalement étrangères.
Oui.
On n'imagine pas les conditions de vie.
On ne peut plus imaginer ça.
Oui.
Il y a un livre qui s'appelle « À Paris et ailleurs », mais ça, c'est passionnant à lire parce que vous découvrez là des dizaines de métiers qui n'existent plus, qu'on voyait dans Paris à l'époque. Puis la misère noire, la misère des enfants traînant dans la rue, se jetant sur un petit morceau de pain. Enfin, il y a des descriptions, les yeux nous sortent de la tête. Oui, voilà, le courant bartien, peut-être que ça jouait un rôle, je ne sais pas.
Nous sommes peut-être le dernier lieu où on parle encore de Wilfred Monod.
Enfin, il est gentil qu'à la faculté, dans leur figure de proue, hein, du protestantisme moderne et contemporain, ils estiment qu'il faut parler de Wilfred Monod. Alors, c'est peut-être la seule trace que j'aurais laissée, mais c'est déjà pas mal dans un sens. Moi, j'avais une collègue qui disait que j'avais été doyen, j'avais obtenu des tickets restaurants pour mes collègues. Ça avait été tout un combat, hein, pour obtenir ces tickets restaurants pour les professeurs. Et j'ai eu une collègue qui disait « Oh, il y a une chose qu'on n'oubliera jamais de ce que tu as fait, c'est les tickets restaurants. » Ça ne vaut quand même pas la clairière et les veilleurs. Hein.
Et la croix bleue,
L'origine de la Croix-Bleue, non, c'est pas lui. Non. Non, mais il était pour la Croix-Bleue. Hein.
À propos des publications, il semble qu'il y ait sur le site d'Amazon,
oui,
des publications de Monod.
Qu'on peut trouver encore.
On peut les trouver.
Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais sur le site d'Amazon, il y a par exemple le christianisme spirituel et le christianisme social.
Ça, c'est
mon livre.
C'est à la fin du christianisme.
Oui, c'est, je vous l'ai cité comme une œuvre apologétique intéressante. La fin d'un christianisme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il y a la nuit des témoins.
La nuit des témoins, c'est ce que je vous ai dit, ça, il faut l'avoir.
Et alors, à quel prix? À quel prix, la nuit des témoins?
La nuit des témoins, je sais pas.
Son livre sur le protestantisme n'est pas très bon. Hein. Mais vous savez, dans ce livre, voilà encore. Ah oui, ça c'est pas mal. Dans son livre sur le protestantisme, il dit qu'il est prêt à reconnaître le pape.
Il dit ça.
Oui, il le dit, il l'a écrit. Vous comprenez quand vous me dites comment son fils, ceci, cela. Il a écrit tout, il a un peu écrit. C'est quand même bizarre. Hein. Mais il y a un point où il est très libéral, c'est qu'alors à l'époque, vous savez, on se disputait effroyablement pour ou contre la méthode historique et critique de lecture de la Bible. C'était le grand combat. Les libéraux pour, les orthodoxes contre, et on était l'un ou l'autre. Et lui a toujours affirmé la lecture historique et critique de la Bible. Dans ce sens-là, il est tout à fait libéral. Tout à fait. Voilà.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de sa famille? Moi, j'aime bien des grands hommes, les connaître dans leur milieu personnel. Quelques informations, sans être indiscret.
Ben, Dorina, sa femme, était une mono, comme je vous ai montré, c'était mono. On dit souvent que les enfants ne sont pas tout à fait normaux, enfin, ça donnait des enfants géniaux. Hein. les trois enfants de Wilfred Monod, Théodore Monod, Maximilien Vaux et Sylvain, qui était quand même un grand savant, c'est pas n'importe qui, sont des enfants géniaux. Je ne connais pas spécialement sa famille autrement. Mais la femme de Monod exerçait un véritable ministère pastoral. Hein. Et chose très étrange, moi j'ai travaillé sur les manuscrits, donc j'arrivais pas à distinguer l'écriture de Dorina de l'écriture de Wilfred. Ils ont une écriture qui est devenue peu à peu exactement la même. Donc je ne sais pas si parfois je n'ai pas attribué à Wilfred des choses qui étaient de Dorina. Et c'est assez extraordinaire. Quelque part, il dit « la femme du pasteur ne partage pas son ministère, elle le multiplie ». C'est assez beau comme affirmation. Oui. Une belle image. Hein, une belle... Voilà.
On ne le répète pas à tout le monde. Hein. Mais comme là, une qui n'apprécierait que moyennement.
Là aussi, c'est partiellement dépassé. C'est partiellement dépassé, tout ça.
Bon, et bien, un grand merci, Laurent. Voilà. Nous t'avons encore avec nous, de toute façon, si on a d'autres questions qui viennent. Et puis, tu prêches le 17.
Oui, novembre.
Donc, vous pourrez retrouver les meilleures expressions de Laurent dans sa future prédication, peut-être.
Il n'y aura pas à joindre les mains, c'est à joindre les autres. Je ne crois pas que je vais faire ça.
Bon, tant pis. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain et donc ce coup-ci, ce sera avec Rudolf Bultmann, si ma mémoire est bonne. Oui. Très bien. Alors, on fera ainsi.
Et c'est toi ?
Ce sera nous, oui. Ouais. Bonne soirée, bon retour et à très bientôt.
Merci de votre présence. C'est quand même...